Bonsoir à toutes et à tous. Rude semaine pour Donald Trump, condamné par un tribunal de New York à payer 2 millions de dollars pour utilisation politique de sa fondation. Donald Trump qui a également subi deux défaites électorales dans le Kentucky et en Virginie. Et puis il y a toujours cette procédure d'impeachment qui est en cours avec bientôt des auditions publiques et des très proches du président américain qui pourraient donc témoigner à la télévision. Donald Trump peut-il perdre? Est-il menacé? Jusqu'où ses électeurs sont-ils prêts à le suivre? Et puis en face, que proposent les démocrates? Quels sont leurs arguments? Plus que jamais, cette élection américaine s'annonce captivante et les enjeux sont colossaux. C'est pourquoi nous avons décidé d'intituler ce « C'est dans l'air » ce soir « Condamnation, revers électoraux, ça tangue pour Trump ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir François Clémenceau. Vous êtes rédacteur en chef en charge de l'actualité internationale au Journal du Dimanche. Et puis je rappelle votre blog, Trump Power. Thomas Negaroff, historien spécialiste des États-Unis, chroniqueur sur France Info. Et je précise que l'on peut vous retrouver au théâtre de la Tour Eiffel. Ce sera le 2 décembre prochain pour « Il ne mérite pas tes larmes », l'histoire des premiers élèves noirs américains à entrer dans le lycée blanc de Little Rock en 1957. Laurence Nardon, chercheur responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI, auteur des États-Unis de Trump en 100 questions, c'est chez Talendier. Et puis on peut retrouver votre podcast Trump 2020 sur toutes les plateformes et sur le site de l'IFRI. Et enfin, Mélissa Bell, vous êtes correspondante à Paris de la télévision américaine CNN International. Bonsoir à tous. Alors, François Clémenceau, petit round-up de la semaine, il y a eu plusieurs mauvaises nouvelles qui se sont succédées. Alors, dans des domaines différents pour Donald Trump.
Oui, oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément tout mettre dans le même sac, mais tout de même, c'est vrai que ça a commencé par une série de témoignages dans cette procédure de destitution au Congrès, où finalement un certain nombre de collaborateurs du gouvernement américain sont venus remettre en cause la thèse officielle de la Maison-Blanche, à savoir que Donald Trump n'avait rien commis de grave dans son fameux coup de téléphone au président ukrainien l'été dernier.
Il n'a pas fait de chantage.
Et là, en l'occurrence, ces témoignages contredisent cette version et affirment que oui, il y a bien eu une forme de chantage en soumettant le déblocage d'une aide militaire à l'Ukraine en échange de renseignements, d'informations ou de gestes de la part du gouvernement ukrainien pour salir l'image de Joe Biden, l'un des principaux candidats à l'élection présidentielle. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est effectivement ces deux scrutins locaux. Alors on pourrait se dire, ce sont des élections locales, mais tout de même, l'une est très importante parce que ça se passe dans le Kentucky. C'est l'un des fiefs républicains, notamment celui du chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell. Et donc, ça signale, même si c'est une victoire très très courte pour l'instant, qui est même contestée par le candidat républicain, mais c'est une victoire qui dit quelque chose quand même sur les interrogations qui sont nées dans le camp républicain. Et l'autre victoire en Virginie est importante aussi parce qu'on dit toujours que cet État est un État, non pas un swing state, mais tout de même, c'est un État où les républicains sont capables de pouvoir éventuellement revenir dans le jeu. Et donc, ce sont deux défaites qui signalent pour les démocrates qu'il y a des chances à saisir et qu'il ne faut reculer devant aucun obstacle, y compris dans des États réputés républicains. Et la troisième mauvaise nouvelle, c'est que Trump, devant ces difficultés-là, ne semble pas trouver de réponse. Et c'est important parce que le calendrier s'accélère. Dans l'enquête sur la destitution, on entend maintenant un certain nombre de responsables de cette enquête dire « il est possible qu'on ait terminé la procédure avant Noël ». Alors là, si effectivement vous avez un vote de la Chambre de mise en accusation de Trump avant Noël, c'est clair que le calendrier politique, le calendrier institutionnel devient très préoccupant, presque urgent, avec des réponses à trouver. Et même si il n'est pas sûr que le Sénat, dans la foulée, puisse condamner Donald Trump, il est même plutôt prouvé que ce soit le contraire, il n'empêche...
Il faut une majorité des deux tiers.
Des deux tiers, oui. Donc voilà, Trump, pour l'instant, c'est rare de voir que dans ce genre d'événement, généralement, il est extrêmement réactif, très pugnace, il essaie de renverser la table. Et là, moi, je trouve que les réactions ont été plutôt faibles pour un personnage comme le sien. Donc on va voir comment maintenant s'amorce le processus de réaction politique à la Maison-Blanche, à la présidence. Il y a quand même un peu de flottement, moi, je trouve.
Il n'empêche, Thomas Negaroff, tous ceux qui prédisent à chaque fois la chute de Trump se trompent. On a l'impression que tous ces ennuis glissent comme l'eau sur Des plumes de canard, comme on dit.
Ouais, il y a une autre expression pour Ronald Reagan, on disait que c'est le président Teflon. Ah, pareil, voilà. Hein, ça ne colle pas, comme pour, voilà. Comme pour les poils. Oui, il y a un peu de ça, mais comme le rappelait François, c'est aussi l'accumulation des choses hein, qui, au bout d'un moment, peuvent l'accrocher. Alors, bien sûr, je sais qu'on est tous traumatisés, ni dans un sens ni dans l'autre, mais par les mauvaises prédictions de 2016 et comme une espèce de manière de revenir un peu en arrière. Maintenant, on n'ose plus dire que Trump puisse un jour être battu. Lui-même, même face aux défaites, considère des victoires. Hein, parce que si Matt Bevin, son candidat, a perdu le siège de gouverneur dans le Kentucky, Trump dit « Ouais, mais si j'étais pas venu le voir, il était 15 à 20 points derrière. Donc maintenant, il est dans un mouchoir de poche. Donc grâce à moi, il a quand même gagné 20 points. » Bon, vous voyez, ça, c'est du Trump tout cuit. Et le problème, c'est qu'il tient ce discours-là et qu'on a tendance à l'écouter, à essayer de voir pourquoi il dit ça, à se demander, finalement, n'a-t-il pas raison? N'est-il pas plus fort que tout le monde? Et 2016 l'aurait absolument prouvé. Et puis, on sait aussi qu'un Barack Obama a perdu des élections de mi-mandat, beaucoup d'élections aussi intermédiaires, et a gagné la présidentielle. On sait bien, et il le dit, les gens n'ont pas voté pour ou contre Trump, ils ont voté pour ou contre Matt Bevin, pour ou contre tel élu d'une des deux chambres de Virginie. Donc, effectivement, il ne faut peut-être pas aller trop vite et y voir immédiatement le déclin, dire ça y est, la maison flanche, hein, pour employer un jeu de mots qu'on a employé pas mal depuis 3 ans en tout cas. Ça n'empêche qu'il y a quand même des difficultés fortes aujourd'hui. On les a rappelées. Notamment, l'une des grandes difficultés, je crois, c'est un chiffre qui n'a pas été beaucoup commenté, c'est que Trump n'arrête pas de dire 90 à 95% des républicains me soutiennent. Mm-hmm. Ça a été longtemps vrai. Mais dans les derniers indicateurs, on note que ça dévisse et qu'il est autour de 74-75% dans son propre camp.
Son camp commence à...
En tout cas, ce fameux truc de la base solide qui tient, c'est vrai en partie, mais ce n'est pas vrai totalement parce qu'on commence à voir des choses. Et autre chiffre, et après je passerai la parole avec Amara. Un autre chiffre, quand on regarde l'opinion publique face à l'impeachment puis à la destitution, vous êtes aujourd'hui à environ, allez, si on agrège tous les sondages, à 48,5, quasiment 50% en faveur de la destitution du président. Un rappel historique, sous Clinton, c'était que un tiers des Américains qui voulaient la destitution du président, et sous Nixon, qui a quand même démissionné, on est monté à 50%, mais quelques jours seulement avant sa démission. Sinon, structurellement, on était bien en dessous de ça. Donc il y a des éléments, ça ne veut pas dire que Trump va perdre et qu'il va démissionner ou être renvoyé, démis de ses fonctions dans quelques semaines, je ne dis pas cela. Je dis juste que regardons tous les indicateurs et voyons ce qui va, mais aussi ce qui est plus difficile pour lui.
Ça veut dire qu'on a un président américain très clivant, mais Laurence Nardon, quand on regarde les sondages, il a 43% de soutien. Ça nous semble énorme parce qu'en Europe, il est très critiqué. Quels sont les ressorts de cette popularité qu'on a du mal à comprendre ici, en France et en Europe?
Déjà, oui, 43%, mais je suis d'accord avec Thomas qu'il y a un effet d'accumulation peut-être dans le camp républicain, que peut-être il y a une goutte qui fera déborder le vase un jour et qu'ils basculeront dans une opposition au président. Mais c'est vrai qu'ils gardent une base solide, en tout cas, et les explications, à mon sens, c'est que, bon, déjà... Je pense que nous, en Europe, on a une vision un peu faussée des choses, parce qu'on lit le Washington Post, on lit le New York Times, on entend des voix plutôt pro-démocrates ici. On a une vision un peu déformée de ce qui se passe aux États-Unis. Quand vous êtes à Washington et que vous parlez à des républicains, Washington étant une ville très démocrate, mais enfin, quand vous trouvez des républicains et que vous leur parlez, ils vous expliquent qu'ils n'aiment pas Trump, mais qu'il fait une très bonne politique parce qu'il nomme des juges conservateurs à la Cour suprême. Ça, c'est pour les républicains conservateurs, on va dire presque... les REAC, pour employer un terme équivalent en français. Ils sont très contents de la situation économique. Hein. On ne parle pas trop du déficit, mais pour le chômage et la croissance, tout va très bien. Donc, ils mettent ça en avant aussi. Et du coup, il faut voir qu'il a des points qui plaisent à ses électeurs. J'allais oublier un très important, c'est toute sa politique nationaliste, anti-environnementaliste, anti-immigration... Les seuls points sur lesquels les républicains traditionnels, je ne parle pas de la base, mais des élites du parti, n'aiment pas Trump et ne sont pas d'accord avec lui sur sa politique, c'est sur le libre-échange et sur cette remise en cause des grands accords de commerce international.
Les droits de douane aux frontières.
Mais donc, pour le reste, ils aiment bien la politique qu'il fait sur beaucoup de points. Et donc, voilà.
Et puis alors, Mélissa Bell, il y a le style Trump. Alors, vous qui êtes journaliste américaine, est-ce qu'on finit par s'habituer? Est-ce que c'est l'une des composantes de sa popularité? Je dis ça, il y a... parfois des choses qui font sourire. Par exemple, j'ai Elizabeth Warren, qui est candidate démocrate. Il la surnomme Pocahontas parce qu'elle revendique un peu de sang indien. Donc c'est typique Trump, ça, non ?
Oui, absolument. Je pense qu'un des refrains de la presse américaine, de la presse sérieuse américaine depuis 3 ans maintenant, c'est qu'il ne faut pas s'habituer à tout et n'importe quoi. Il a son style, mais ça ne veut pas dire que la presse ne doit pas faire son travail. Et d'autant plus qu'il a tendance à vouloir brouiller les pistes. Je vous donne un exemple très précis dans le contexte de ce dont on parle en ce moment. 12 fois, ces dernières semaines, il a tweeté qu'il n'y avait pas ce fameux quid pro quo. Donc, qu'il a cherché à exercer de l'influence et la contrepartie, c'était que l'aide militaire pour l'Ukraine ne serait pas donnée au moment alors que le Congrès avait voté pour.
Quid pro quo, ce n'est pas tout à fait la même signification qu'en français. En anglais, ça veut dire qu'il y a un donnant-donnant. Hein.
Je
te donne 400 millions, enfin, je te donne des aides en Ukraine et en échange...
Un échange clair,
Tu salis la réputation
et
de Joe Biden.
Et qui va au cœur, finalement, de cette enquête de destitution. 12 fois, il a tweeté qu'il n'en avait aucun. Sur les 6 témoignages qui ont été reçus et les nombreuses pages de témoignages qui ont maintenant été mises dans la sphère publique, il y a 3 exemples clairs d'officiels, qu'ils soient diplomates ou de l'administration Trump, qui montrent clairement qu'il y a eu un quid pro quo. Donc on a ce décalage, si vous voulez, entre ce qu'il dit, ce qu'il tweet, et ce qu'on sait, les faits. Et le travail de la presse, ça n'est jamais que de rappeler les faits.
Et oui, mais on a l'impression que ça passe aussi. Ce qu'il dit, beaucoup de ses électeurs disent « Ah, enfin quelqu'un qui dit la vérité, et enfin on est plus intoxiqué par ces journaux gauchistes type CNN. »
Et je pense qu'une des grandes questions sera sur le long terme, quelle sera la conséquence de tout ça par rapport à la capacité des gens à vouloir connaître la vérité, à comprendre qu'il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses, et que c'est important de pouvoir faire la différence. En fait, les pistes ont été tellement brouillées avec tellement de succès de la part de Donald Trump que sur le long terme, il détricote finalement cette certitude qu'il y a une vérité et qu'on peut la connaître.
Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas deux camps qui s'affrontent, peu importe les faits? Au fond, chacun a pris fait et cause pour un camp. Thomas Snegaroff.
C'est pas lui qui l'a inventé, hein, le mensonge et la propagande, c'est aussi vieux que la politique. Mais lui, ce qu'il a imposé, et c'était une expression de Kellyanne Conway, c'est la notion de fait alternatif. C'est-à-dire que, en gros, on vous dit ça c'est vert, non c'est bleu, maintenant c'est vert. Bah, écoutez, respectez mon opinion. Et puis ce qui est malin, c'est de dire vous ne respectez pas mon opinion alors que vous dites tolérant. Et hop, on inverse la chose et ça fonctionne.
Et sur le long terme, c'est très corrosif finalement. Je le racontais à Thomas l'autre jour. Et un sondage récemment a montré que ils ont questionné des républicains. 4 sur 10 seulement acceptaient que le nom de Joe Biden avait été mentionné dans le fameux appel du 25 juillet, dont on a une transcription. Ouais. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que même quand on a les faits sous
avérés,
les yeux... On ne les croit pas.
Et
alors, juste pour finir sur ce que je vous disais, je pense que la semaine prochaine, ce qui va être très intéressant, c'est que le processus de destitution passe dans une phase publique. Les témoignages seront faits en public.
Jusque-là,
ils étaient relayés par la presse. On entendait, on avait les témoignages qui étaient publiés, on entendait ce qui avait été dit, on avait les avis des politiques d'un côté ou de l'autre. À partir de la semaine prochaine, les Américains vont pouvoir regarder, entendre ce qui est dit. Et je pense que là, le décalage entre ce que dit le président et ce qu'on apprend par ces témoignages sera d'autant plus flagrant.
Alors justement, on va revenir sur cette rude semaine pour Donald Trump. Hein. Donc procédure de destitution, condamnation judiciaire, popularité en berne. Le président américain enchaîne les déconvenues. Dernier scandale en date, sa garde rapprochée aurait envisagé de l'écarter pour cause de démence. Alors, pas de quoi décourager pour autant un Donald Trump, plus offensif que jamais. Sujet de Mathieu Lignot et Aurélie Saner.
Donald Trump en campagne permanente. Cette semaine, il défend en Louisiane son parti des Républicains. Ici, on vote la semaine prochaine pour élire un nouveau gouverneur.
Vous ne pouvez pas subir encore 4 ans de ce gauchiste. Il est temps de remplacer votre gouverneur raté.
Un échec serait un nouveau coup dur pour Donald Trump. Alors que les Républicains viennent de subir 3 défaites électorales mardi dernier, dans les États du Kentucky, de la Virginie et du Mississippi. Donald Trump, menacé par une procédure de destitution, surfe sur cette vague et se dit victime de complot.
Les démocrates doivent être tenus responsables de leur intox et de leurs crimes. Comme ces politiciens corrompus, Nancy Pelosi et Adam Schiff, le sournois. Et les médias, à leurs bottes, ont lancé cette destitution, cette chasse aux sorcières, dérangée, délirante, destructrice et hyper-partisane.
Cette semaine, les auditions dans la procédure de destitution se succèdent, à 8 clos. Ce qui est reproché à Donald Trump, c'est d'avoir fait pression sur le président ukrainien. Il aurait demandé à son homologue de lancer une enquête contre le démocrate Joe Biden, en échange d'aide financière. Et cette semaine, coup de théâtre. l'ambassadeur américain pour l'Union européenne Gordon Sondland change son témoignage et accable Trump.
Je lui ai dit que le versement de l'aide américaine ne serait sans doute pas débloqué tant que l'Ukraine ne publierait pas la déclaration contre la corruption dont nous discutons depuis plusieurs semaines.
En clair, le chantage serait bel et bien un avéré, selon ses comptes rendus d'audience. Alors la commission d'enquête démocrate fait feu de tout bois. Elle convoque pour aujourd'hui le directeur de cabinet de Donald Trump, Mick Mulvaney. Mais viendra-t-il ? Plusieurs fonctionnaires ont refusé de se rendre aux audiences. Il y a trois semaines, ils défendaient son président.
Non, les subventions suspendues n'ont rien à voir avec les Biden. Rien du tout, c'est ce que je dis.
Avis de mauvais temps dans le camp de Donald Trump. Un livre à paraître révèle que son plus proche allié, le vice-président Mike Pence, aurait envisagé de lancer lui-même une procédure de destitution. Son arme, le 25e amendement de la Constitution. Il permet de retirer sa fonction à un président qui n'a pas les capacités mentales pour exercer. Un incroyable scénario démenti par Mike Pence.
Vous savez, quand ces rumeurs sont sorties il y a quelques années, je les ai rejetées. Je n'ai entendu aucune discussion à propos du 25e amendement de toute la durée de mon mandat de vice-président. Pourquoi l'aurais-je fait ?
Les ennuis s'accumulent pour Donald Trump. Hier, il est condamné à payer 2 millions de dollars à la justice. Pas de procès, mais un accord à l'amiable. En 2016, il a utilisé de l'argent de sa fondation caritative pour sa campagne électorale. Et c'est dans ce contexte que l'opposition démocrate cherche son candidat pour la présidentielle. 17 sont en lice, mais un nouvel arrivant pourrait rebattre les cartes. Le milliardaire Michael Bloomberg, magnat de la bourse, des médias et ancien maire de New York. Farouche opposant à Trump, déjà pendant la campagne de 2016.
Pendant sa carrière, Donald Trump a laissé derrière lui un nombre record de faillites, des milliers de procès, des actionnaires en colère, des entrepreneurs qui se sentent trompés et des consommateurs qui sentent qu'ils ont été arnaqués. Trump dit qu'il veut diriger la nation comme il dirige son business. Que Dieu nous aide.
Alors Michael Bloomberg, 9e fortune mondiale, va-t-il défier le milliardaire Trump ? Pour l'instant, il ne s'est pas encore déclaré. Mais certains de ses proches révèlent que Bloomberg serait prêt à mettre 500 millions de dollars dans la campagne présidentielle, son prix, pour battre Donald Trump.
Alors, question téléspectateur. Les sénateurs républicains vont-ils finir par lâcher Trump ? François Clémenceau, si certains témoignages, qui, comme le disait Mélissa Bell, sont maintenant publics à la télévision, étaient accablants pour Donald Trump, des témoignages sous serment. Il y a un moment, un politique, il a quand même son honneur, non ? Ou la probité qui passe avant tout.
Ça fait quand même trois ans qu'il y a une majorité républicaine au Sénat, et il y a eu un certain nombre d'épisodes qui sont venus tester précisément l'allégeance, la loyauté des sénateurs républicains vis-à-vis de leur parti et vis-à-vis de Donald Trump. Et jusqu'à présent, on s'en est rendu compte, par exemple, au moment des auditions pour nommer des juges à la Cour suprême, lorsqu'il y en a l'un d'entre eux qui a été... extraordinairement controversé pour avoir notamment été impliqué dans des histoires d'agressions sexuelles. Oui, vous avez eu un certain nombre de sénateurs républicains qui se sont dit troublés, qui se sont dit hésitants, même dans le doute. Mais le résultat, c'est que ces candidats sont passés quasiment comme une lettre à la poste. C'est-à-dire, il y a un moment, si vous voulez, où le sénateur, et il y en a un certain nombre chez les Républicains, qui sont effectivement des gens qui ont une indépendance d'esprit, qui sont assez lucides sur les performances et les contre-performances de Donald Trump, mais qui, au bout du compte, regardent aussi quel est l'intérêt du Parti républicain et quel est leur propre intérêt, la réélection, pour ceux qui seront candidats à la réélection. Et donc, si vous avez aujourd'hui un président qui est en difficulté, certes, mais qui garde ses chances d'être réélu, avec un certain nombre de circonscriptions où ces sénateurs sont en bonne position pour pouvoir être réélus. Même chose d'ailleurs pour un certain nombre de candidats à la Chambre des représentants ou pour les postes gouverneurs. Pourquoi voudriez-vous, si vous voulez, qu'ils viennent prendre le risque de mettre à mal l'unité du parti autour de Trump, qui reste valide, pour une position honorable, certes, mais qui met en faillite un certain nombre de principe sur la force du Parti républicain. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est quand même dans une société qui reste, malgré tout, en tout cas à Washington, bipartisane. Vous avez énormément d'électeurs indépendants, mais au final, ceux qui sont au Congrès, ce sont soit des républicains, soit des démocrates. D'accord. Et donc, ces questions-là jouent. Vous avez juste un mot, une sénatrice en particulier qui intéresse beaucoup les médias américains en ce moment, qui s'appelle Susan Collins, qui est sénatrice du Maine. Et elle a prouvé dans son histoire de sénatrice qu'elle était parfaitement capable, par moment, de voter avec les démocrates. Et puis, dans ces différents tests que j'évoquais tout à l'heure, eh bien non, elle a voté avec les républicains pour soutenir son propre parti, alors qu'elle ne pense pas un bien fou du président des États-Unis.
Alors, Laurence Nardon, l'autre fait de la semaine, c'est cette condamnation par un tribunal de New York contre Donald Trump pour utilisation de sa fondation à des fins politiques. Ça témoigne encore du style Donald Trump, pour qui l'argent achète tout. C'est d'ailleurs le côté un peu bling-bling, mais alors qui passe comme une lettre à la poste aux États-Unis.
Bah, la preuve que non, puisqu'il a été condamné. En fait,
c'est à New York. Par un tribunal de New York.
Oui, mais c'est le système américain est comme ça. C'est les cours locales qui vont condamner un délit local. Ouais. Et cette fondation, oui, il a utilisé. Alors, non seulement il a utilisé les fonds de la fondation Trump pour ses campagnes ou des utilisations politiques, mais il l'a aussi utilisé pour réparer une fontaine qui était en face. La seule donation importante qu'a faite cette fondation pendant ses plus de 10 ans d'opération, c'est la réparation d'une fontaine publique qui était juste devant un hôtel de Trump. Donc ça tombait bien. Il a aussi fait une donation de $7 au Boy Scout of America, qui était incidemment le coût de l'inscription de son fils. Enfin bref, non, on pourrait en rire, mais ça montre que pour Trump, il n'y a pas de différence entre son activité privée, ses activités d'homme d'affaires, ses activités d'homme politique et l'intérêt de l'État. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mélange, il n'y a pas de...
Et les États-Unis et les Américains, ça ne les gêne pas.
Mais bien sûr que si. Je pense qu'on... une fois de plus, il a été condamné. Donc ça montre que la justice américaine est quand même active et éthique. Comme le disait François tout à l'heure, les Américains, même républicains, n'aiment pas ce comportement.
Mélissa Bell, il y a moins de 2 semaines, al-Baghdadi a été éliminé. Est-ce que c'est totalement oublié? Les Américains savaient à peine qui c'était al-Baghdadi. On n'a pas l'impression que ce soit mis à son crédit de façon durable, en tous les cas.
Écoutez, il avait cette façon très particulière de l'annoncer. Et ça venait dans une contexte, une série d'événements où ces agissements politiques sur la scène internationale n'ont pas été particulièrement bien accueillis, ni aux États-Unis, même par la majorité républicaine, pour une fois, qui se sont exprimés assez fortement par rapport au retrait américain de la Syrie.
Qu'est-ce que vous entendez par là, la façon dont il a dit « j'ai suivi ça comme au cinéma » ou il a mis une décoration
pour la présentation
à un chien
Bagley, Oui, c'est ça, c'était du grand Trump. Il était prévu qu'il le dise, je crois, 600 mots, il en a dit 8000. Et il y a eu beaucoup de comparaisons faites entre l'annonce de Barack Obama, bien sûr, au moment de l'attaque contre Ben Laden, et la façon dont l'avait fait Trump. Mais je ne pense pas que pour l'instant sa stratégie sur la scène internationale soit particulièrement vendeuse aux États-Unis, même chez les républicains. Il est très critiqué. Mais pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, je pense que les républicains, c'est ça le piège dans lequel ils sont pour l'instant. À part ces moments où vraiment c'est tellement flagrant qu'il faut qu'ils s'expriment, comme par exemple sur le retrait de la Syrie, ils sont dans un espèce de piège où, quels que soient les agissements de Donald Trump, ils ne peuvent pas tellement s'exprimer parce qu'ils demandent une loyauté absolue et qu'ils sont pris dans cet objectif qui est le leur depuis des décennies, qui est d'essayer de rendre la Cour suprême de leur côté. 2 nominations, c'est bien, ils en veulent plus. Plusieurs des justices sont assez âgés. Ils peuvent imaginer que si Trump gagne, ils vont enfin atteindre cet objectif. Et pendant des décennies, ça leur semblait impossible. Donc, voilà le piège pour les républicains. Très difficile pour eux maintenant, à 1 an de l'élection, de se tourner contre le seul candidat qui puisse leur donner ce but-là.
Surtout que ceux qui l'ont fait, pour le coup, l'ont payé quand même très cher. Ceux qui ont osé prendre leur indépendance par rapport à Trump, que ce soit dès le départ ou par la suite.
Il y en a eu beaucoup.
J'ai les sénateurs, il y en a quand même eu 3 ou 4.
Et ils l'ont payé Trump-né aujourd'hui.
Il y a aussi, ce rôle. Oui, bien sûr.
Alors, Thomas Stegaroff, il y a autre chose qu'on comprend mal, nous, Français, en tous les cas, sur le système électoral américain. C'est qu'on sait qu'à New York ou en Californie, on est très anti-Trump. Mais en fait, on a l'impression que cette élection, ça va se jouer dans 6 États. Il paraît qu'il y a 6 États. Où le vote pourrait basculer pour Donald Trump ou pour son opposant démocrate. Et donc, au fond, on ne va faire campagne que dans ces 6 États. Alors, on peut les noter. Hein, c'est le New York Times qui dit ça. Michigan, Pennsylvanie, on va voir la carte d'ailleurs. Wisconsin, Floride, Arizona et Caroline du Nord. Ce sont les électeurs qui doivent être une petite proportion d'Américains qui vont décider du nom du futur président des États-Unis.
C'est tous les 4 ans la même chose. C'est un système électoral qui n'est pas direct, c'est indirect, avec des grands électeurs, avec un système très particulier qui est que lorsque vous êtes en tête dans un État, vous avez tous les grands électeurs dit État, donc ce n'est pas la proportionnelle du tout. Et dans ces États-là, si on cite ceux-là, c'est parce que ce sont les États qui sont les plus tendus, les plus serrés, où ça peut basculer à quelques centaines, quelques milliers de voix dans un camp ou dans un autre. Mais si vous basculez dans un camp, vous avez tous les grands électeurs du camp, dans l'autre camp, tous les grands électeurs de l'autre camp. Donc ça se joue à très peu. Ils savent très bien, c'est la grande erreur d'Hillary Clinton il y a 4 ans de ne pas avoir fait suffisamment campagne dans ces swing states, c'est les États qui sont...
Swing, ça veut dire qu'ils basculent.
Voilà, qui basculent, qui hésitent, etc. La Virginie a longtemps été un swing state. Les swing states ne sont pas inscrits dans le marbre. Certains basculent. La Virginie aujourd'hui est très clairement un État démocrate. Mais certains disent que demain, le Texas, avec l'évolution démographique, sera un swing state. Donc ça, ce n'est pas figé, mais effectivement, les États qui sont cités là sont ceux de la précédente élection, sont ceux de la prochaine, avec comme conséquence, et c'est ce qui s'est passé en 2016, qu'un candidat peut avoir bien plus de voix que son adversaire et perdre l'élection présidentielle.
Ce qui était le cas en 2016, il avait 3 millions de voix en moins que Hillary Clinton.
Mais en même temps, alors tout le monde dit oui, c'est scandaleux, mais en même temps, Trump savait très bien que ça ne servait à rien d'aller faire campagne, par exemple en Californie.
Donc il n'y est pas allé,
où il aurait pu gratter des électeurs. Donc c'est-à-dire que si vous êtes un électeur de Californie, les Français qui vont nous écouter vont dire, mais c'est quoi cette histoire ? Imaginez, vous êtes un électeur de Californie, vous êtes républicain, ça ne sert à rien d'aller voter. Parce que vous alliez voter ou pas, l'État sera majoritairement démocrate et donc l'ensemble des grands électeurs iront dans le camp démocrate. Donc c'est un système quand même très particulier.
Il n'est pas critiqué quand même ce système. Quand on habite en Californie, qu'on est républicain, sa voix ne sert à rien.
Oui, c'est très critiqué, vous avez raison.
Non seulement la présidentielle, parce que pour les élections locales, évidemment, qu'il y a des élus...
Mais même quand on regarde les élections locales, vous avez 100 sénateurs aux États-Unis, 2 sénateurs. Donc les sénateurs, c'est eux qui ont le plein pouvoir. À la fin, c'est eux qui vont par exemple destituer ou pas président Trump. Vous avez 2 sénateurs par État, quelle que soit la taille de l'État. Ça veut dire qu'il y a un électeur du Wyoming à, je ne sais pas combien il faudrait faire le calcul, des milliers de poids politiques de plus qu'un électeur d'un très grand État.
Alors justement,
Laurence
Nardon, le New York Times a fait des sondages dans ces 6 États qui sont les États clés. C'est là que ça va se jouer l'élection. Ils disent que c'est très serré dans ces 6 États. Quelle est la sociologie de ces électeurs qui peuvent basculer? Et en gros, qu'est-ce qu'on va dire pour essayer de convaincre ces gens de voter républicain ou démocrate? Qui sont-ils, ces électeurs clés qui vont décider de l'issue de cette élection?
Eh bien, dans les 6 États dont vous parlez, ce qui fait vraiment le basculer... ce qui est intéressant d'un point de vue sociologique à étudier en ce moment, c'est... l'accroissement des banlieues, les suburbs, et dans ces suburbs-là,
les banlieues,
on voit arriver plus d'électeurs qui votent démocrates parce que ce sont généralement des gens des classes moyennes diplômées, et ceux-là, plutôt blancs et plutôt à l'aise dans la vie, et ceux-là votent plutôt démocrates aujourd'hui. En fait, l'électorat de Trump, il est très divers, mais enfin, les 2 gros blocs sont les conservateurs chrétiens du sud des États-Unis, donc ceux qui sont très rétrogrades sur les questions de société, qui sont contents des juges à la Cour suprême de plus en plus réactionnaires. Et l'autre bloc, ce sont les populistes, c'est-à-dire d'anciens démocrates éventuellement, mais qui ont perdu leur emploi, qui sont inquiets pour l'avenir sur les questions économiques, mais aussi identitaires, ça, il faut le souligner. Et ceux-là sont plutôt dans les États des Grands Lacs, ce qu'on appelle la Rust Belt, c'est-à-dire les États désindustrialisés. Et ceux-là vont très certainement revoter Trump en 2020.
Et ce qui est intéressant dans ces États-là, on va mettre l'Arizona à part, parce que c'est un État du Sud-Ouest. Mais si vous prenez effectivement ces 5 États, en l'occurrence 3 d'entre eux, les principaux, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, là on est vraiment effectivement dans la Rust Belt. Ce sont donc les cols bleus, les cols bleus démocrates, ex-démocrate.
Donc voilà, tous ceux du Nord, en fait, ce sont des ouvriers qui ont perdu leur emploi, qui votaient à gauche et qui maintenant votent Trump.
Et là, quand vous regardez en détail ce que voteraient ces électeurs face à Trump contre, ils ont testé les autres candidats démocrates, le seul qui réussit à battre Trump de 2 à 4 points dans ces 3 États-là, c'est Joe Biden. Les autres, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, populiste de gauche, sont soit à égalité, soit en dessous. Autrement dit, à un an de l'élection.
C'est Joe Biden
ça
le
veut dire
plus à même de battre Donald Trump.
Oui, mais ça, on est à un an de l'élection.
D'accord.
Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant et à ce stade, le discours que tiennent les candidats les plus à gauche du parti, Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, n'arrive pas à convaincre cette classe moyenne blanche de ces trois États industriels. Et c'est très problématique à un an de l'élection, même à un an de l'élection.
Alors justement, on va parler des démocrates. Alors, si c'est pour parler des démocrates, on va regarder un sujet sur les démocrates et on va en débattre après.
Moi, j'avais un autre truc à dire.
Laurence Tardon.
C'est que ça, c'était les.
On ne parle pas des démocrates.
Non, je ne parle pas des démocrates. Ça, c'était des sondages entre Trump et ces fameux différents démocrates.
Ouais.
Mais les sondages entre démocrates eux-mêmes sont bien différents. Et là, je vous laisse passer le sujet sur les démocrates.
Voilà, on va s'intéresser précisément à ce sujet des démocrates, puisque les enduits de Donald Trump. Peuvent-ils bénéficier aux adversaires, donc à ses adversaires, les démocrates? Pas sûr. Écoutez, une équipe de C'est dans l'air s'est rendue dans le Michigan, dans le Nord, donc l'un de ces États du Midwest qui a basculé en 2016 en faveur du milliardaire. Et depuis plusieurs mois, les démocrates tentent de reconquérir ce territoire et notamment le vote des Afro-Américains. C'est l'une des clés du scrutin. Reportage de Pierre-Millet Mélando et Stéphane Lopez.
Dans la banlieue de Détroit, la petite ville de Novi et son église méthodiste. Ce jour-là, pas de chants religieux, mais des incantations politiques.
Je veux vous encourager à rejoindre les démocrates de Novi. On travaille dur pour nous implanter et c'est un jour parfait pour montrer de quoi nous sommes capables.
Un concours de cuisine pour mieux conquérir des voix. À quelques semaines d'élections locales et à un an du scrutin présidentiel, le Parti démocrate mobilise son électorat.
On dit que la politique, c'est le local. C'est pourquoi il faut rassembler ses voisins, sortir et leur parler des problématiques du moment. Et se dire, on est d'accord, c'est pas normal, bougeons-nous. Et c'est vraiment ça l'intérêt de cet événement, mobiliser la communauté et discuter ensemble ce qu'on n'a pas assez fait ces derniers temps.
Si elle applaudit les discours, Tia Marie Sanders n'est pourtant pas convaincue. Accompagnée de ses deux filles, cette militante afro-américaine attend beaucoup plus du Parti démocrate.
Je veux voir des gens qui s'occupent de nos problématiques, le logement, les violences policières, avoir des plans concrets et réalistes pour s'attaquer au racisme. Et ça, on ne nous le propose pas.
Voilà pourquoi en 2016, elle n'a pas voté pour Hillary Clinton. Et elle n'est pas la seule. Il y a 4 ans, le Parti démocrate perdait pour la toute première fois en 30 ans le Michigan, un État qui lui semblait acquis. 12 000 voix seulement permettent alors à Donald Trump de l'emporter. Beaucoup d'Afro-Américains ne sont tout simplement pas allés voter. Lavora Barnes est une proche de Barack Obama. Nommée en janvier dernier à la tête du Parti démocrate du Michigan, elle estime que son camp a pris pour acquis le vote des minorités.
Nous n'avons pas donné aux communautés afro-américaines une raison d'aller voter. On n'a pas bien communiqué auprès d'eux sur l'importance de leur vote, sur la démarche d'aller voter en 2016. Le truc, c'est que les échanges qu'on a aujourd'hui sont différents parce qu'il y a Donald Trump. Et parce que Trump propage la haine. Trump est un raciste. Et maintenant, voilà ce qu'on dit. C'est le moment. C'est le moment de se relever et de reconquérir son pays.
Mais miser sur la seule critique de Donald Trump pourrait ne pas suffire. À Détroit, Tia Marie vit dans la nostalgie du couple Obama.
J'aime quand ils ont ces moments privés. Ils sont eux-mêmes, pas devant un public. Ça me manque. Ça me manque cette communion, cette confiance qu'on avait en notre président.
Parmi ses proches, personne ne soutient Donald Trump. Mais leur vote n'ira pas automatiquement au candidat d'opposition. Joe Biden, l'un des favoris des primaires démocrates, ne fait pas l'unanimité.
Il arrive en pensant que ça va être facile à cause de la popularité d'Obama. Je veux savoir en quoi il est différent des autres hommes blancs candidats.
Leur priorité, un candidat qui défend les intérêts de leur communauté.
Dans ce pays, je suis noire avant d'être américaine. Mon quotidien est celui d'une noire plus que d'une américaine. Et en tant que femme noire, mon expérience et mes perspectives sont différentes de celles des autres américains. Donc défendre la communauté noire et me défendre moi-même, c'est ma priorité. Car si je ne le fais pas, personne ne le fera.
Le candidat démocrate à l'élection présidentielle sera nommé en juin prochain. Un choix capital qui poussera ou non la communauté afro-américaine vers les urnes, l'une des clés de la victoire en 2020.
Thomas Snegaroff, on entendait cette femme dire « je suis noire avant d'être américaine ». C'est quand même rude et c'est un constat d'échec, non ?
C'est l'échec de Barack Obama qui, en 2004, avait dit « il n'y a pas les États-Unis d'Amérique noire, il n'y a pas les États-Unis d'Amérique blanc, il n'y a pas les États-Unis jaune, rouge, il y a les États-Unis d'Amérique ». Oui, mais c'est une réalité, ce qu'elle dit, cette femme. Et ce qui est intéressant, c'est quand on écoute bien ce qu'elle dit, c'est pas, elle ne dit pas « je me définis d'abord comme ça », c'est « on me définit d'abord comme ça ». Et donc, elle prend acte de la réalité de ce que sont les États-Unis aujourd'hui. Il faut méconnaître les États-Unis et penser que les États-Unis, c'est un melting pot, c'est comme une plaisanterie, pour penser qu'elle a tort. Elle a raison. Et la conséquence politique, pardon, c'est qu'elle vote en fonction des intérêts de sa communauté avant de penser à l'intérêt de la communauté nationale. La conséquence, c'est que vous avez aujourd'hui des campagnes électorales qui sont saucissonnées en fonction de tel ou tel électorat, LGBT, noir, latino. Et donc, vous avez très peu de discours globaux et globalisants. Vous n'en avez plus aujourd'hui aux États-Unis. Il est très difficile d'avoir un homme politique qui arrive avec un discours vraiment qui s'adresse à tous. Donc quand on dit à Trump, il ne s'adresse qu'à sa base, tout le monde le fait. Tout le monde s'adresse à son électorat.
Laurence Nardon.
Et d'ailleurs, il va falloir surveiller dans la campagne, notamment démocrate pour 2020, le sujet des réparations qui est en train de monter. Alors, les réparations, c'est un immense projet qui a été développé par des économistes noirs d'une université dont le nom m'échappe. C'est l'idée que le pays offre enfin des réparations efficaces, donc énormes. On parle de dizaines de milliers de milliards de dollars. Dizaines de milliers de milliards de dollars, hein, c'est bien ce que j'ai dit, pour offrir enfin des réparations financières à tous les descendants d'esclaves aux États-Unis. Et pour le plan, c'est de mettre un terme justement à cette situation de ségrégation sociale économique de la communauté afro-américaine.
Mais il faudrait être en mesure de prouver qu'on est un descendant d'esclaves.
Oui, absolument, ça poserait des problèmes immenses. On est au début de ce truc-là. Ce sujet a été lancé par cet écrivain Ta-Nehisi Coates dans The Atlantic il y a quelques années. À l'époque, tout le monde a un peu pensé que c'était trop ambitieux et presque délirant. Mais ce sujet des réparations est aujourd'hui très sérieusement considéré par tous les candidats démocrates.
Alors justement, François Clémenceau, quel est le programme des démocrates ? Est-ce que ça va être les réparations ? Est-ce que ça va être un programme très à gauche, faire payer les riches, hein, c'est un peu ce que dit Elizabeth Warren ?
C'est tout le sujet.
Ah voilà.
Parce que, à mon sens, la vraie question de cette élection, plus qu'en 2016 encore, c'est est-ce que les démocrates sont toujours centristes ? Ça veut dire capables de réunir le meilleur des idées de la gauche américaine, notamment sur le plan sociétal, sur le plan des valeurs de progrès, et en même temps, un certain nombre d'idées qui ont toujours été classiques dans le camp de la droite, c'est-à-dire le conservatisme fiscal, par exemple, ne cherchons pas les déficits, gardons ouvert la question du libre-échange, etc. Jusqu'à présent, ça a plutôt bien marché, parce que la plupart des grands gagnants des élections démocrates, si vous pensez juste à Bill Clinton ou à Barack Obama, ils ont fonctionné avec ça. Un agenda très progressiste sur le plan des valeurs et en même temps assez centriste ou conservateur sur le plan économique. Et là, avec un certain nombre de candidats comme Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, pour ne prendre que ces deux-là qui sont dans le top de la fiche démocrate.
Ils veulent faire un ISF et démanteler
Pas seulement l'ISF, qui veulent faire surtout
la
sécurité sociale gratuite pour tous, payée par l'État. Donc c'est ça, si vous voulez, le grand enjeu. Plus, pour
comme
Bernie Sanders, oui, comme en France ou comme au Canada, plus l'éducation supérieure gratuite pour les plus pauvres. Vous prenez la totalité de ces deux grandes idées, c'est du 50 000 milliards de dollars. Et là, vous avez quelqu'un comme Nancy Pelosi, qui est donc la cheftaine des démocrates au Congrès, qui se définit elle-même comme étant une sénatrice qui a toujours été plutôt à gauche, progressiste, elle est de Californie, de San Francisco, et qui vient de dire cette semaine, dans une interview à l'agence Bloomberg, où allez-vous ? Où êtes, est-ce que vous n'êtes pas en train d'aller directement droit dans le mur en faisant des propositions du style « demain, on rase gratis » alors que ça résonne effectivement dans la jeunesse démocrate, chez les minorités. Ce ne sont pas des idées stupides, ce sont juste des idées qui vont braquer toute une partie du camp démocrate qui a toujours été centriste ou conservateur sur le plan économique. Et donc, la question du centrisme, elle est posée. Et Face à cela, vous entendez aussi quelqu'un comme Barack Obama, qui a été évoqué dans le reportage. Barack Obama, il a présidé la rencontre annuelle de sa fondation, la Fondation Obama, et il est revenu sur une notion très importante chez les démocrates, qui est l'activisme social. Lui-même était un organisateur social avant de devenir ce qu'il est devenu, un homme politique. Et il dit, c'est très bien de s'indigner, c'est très bien de se révolter contre les injustices, c'est très bien de militer pour les grandes causes, l'environnement, le progrès social, la justice pénale, etc. Mais il y a aussi un moment où lorsqu'on est responsable et lorsqu'on prétend exercer des responsabilités au niveau national, il faut avoir le sens du compromis. Et donc ça aussi, cette notion-là de se dire bah, il ne faut peut-être pas basculer complètement et de façon démagogique ou populiste vers une partie de l'électorat qui n'attend que cela, il faut savoir garder le cap au centre.
Donc
et le
à problème, vous écouter, ils vont dans le mur s'ils ont un programme radical tel que cela se dessine.
Ils vont évidemment être extrêmement populaires dans une grande partie du pays qui a toujours été beaucoup plus progressiste que l'autre. Mais dans ces 6 États que vous avez définis tout à l'heure, est-ce que ces thèmes-là résonnent ? Un peu, mais pas suffisamment. La preuve, c'est que quelqu'un comme Joe Biden, qui incarne cet héritage centriste, eh bien pour l'instant, il est bien placé, certes, mais il n'est pas très très loin devant.
Je pense que c'est un peu la question qui se pose pour les démocrates, c'est est-ce qu'il faut qu'ils votent pour leur candidat avec leur cœur ou avec leur tête, finalement ? Et pour beaucoup, Elizabeth Warren, Bernie Sanders représentent tout ce pourquoi il se bat.
Des programmes très à gauche, il se définit comme un socialiste, hein, Bernie Sanders.
Pour beaucoup de démocrates, ce sont des candidats très attractifs. Elizabeth Warren par son parcours, exactement, autant que par ses idées. Mais au final, ils vont devoir voter pour le candidat qui a les meilleures chances de battre Donald Trump. Et je pense que c'est là où Michael Bloomberg, où la potentielle arrivée dans la course de Michael Bloomberg change tout. Moody's Analytics a fait, selon 3 modèles différents le mois dernier, des prévisions pour l'élection l'année prochaine. Selon les 3, Donald Trump gagnait. Les 2 choses qui pouvaient changer ces résultats, c'était soit une dégringolade de l'économie ou une grande mobilisation des démocrates autour de leur candidat. Michael Bloomberg a cette capacité par son engagement auparavant. Il s'est toujours battu et a mis ses moyens personnels pour essayer d'empêcher l'accès aux armes, pour la lutte contre le réchauffement climatique. Il a plein de choses qui vont plaire aux démocrates, mais c'est quelqu'un qui potentiellement peut élargir sa popularité et quelqu'un pour lequel éventuellement certains républicains pourraient même voter.
Alors justement, cette question, Thomas Snegaroff, Michael Bloomberg, donc, qui est l'ancien maire de New York, hein, songerait-il à se présenter à la présidentielle ? Serait-il le meilleur candidat pour les démocrates ? On peut déjà donner la réponse de Donald Trump qui a déjà tweeté « Le petit Michael échouera, il n'a pas ce qu'il faut pour réussir ».«
Little Michael », c'est son surnom, il a trouvé le surnom. Alors, il y avait « Little Marco » pour Marco Rubio, donc il l'a déjà recyclé. «
Pocahontas » pour Isabelle Warren.
Mais c'est intéressant parce qu'encore une fois, on parle de Bloomberg et on parle de Trump. Voilà. C'est ça le génie de Trump. C'est-à-dire que depuis le début, on est là « Oui, mais là c'est dur, mais de qui on parle ?» Et dans une campagne électorale, tout le monde le sait bien, celui qui donne le ton, qui trouve les thèmes, c'est lui qui l'emporte. Et là, c'est intéressant, Bloomberg. Parce que Bloomberg, je suis absolument persuadé, alors ce n'est pas la première fois qu'il nous fait le coup, hein. Je ne suis pas absolument sûr qu'il y aille, mais il est intéressant à plusieurs titres. D'abord parce qu'il est milliardaire. Alors ça peut sembler comme ça, on dit, mais quel rapport, le fait qu'il est plus riche que Trump.
Bien plus riche.
Et bien plus riche que Trump. Et il a bien plus réussi dans les affaires que Trump. On a entendu dans l'extrait du discours en 2016 à la convention, il avait déjà tenté ce truc, mais il n'était pas le candidat lui. S'il est le candidat lui, parce qu'en fait, Trump, si ça marche, c'est une des premières questions qu'on avait posées au début de l'émission. Si ça marche, il y a une série de facteurs, mais il y a aussi l'image qui renvoie. C'est le mec qui gagne contre tous les autres. Il y a ce côté-là. Mais s'il est en face de lui, quelqu'un, alors soit pour le battre, soit il faut gagner plus de sous, soit crier plus fort, soit être encore plus borderline sur des tas de sujets, ça c'est compliqué. Parce que si les démocrates font ça, dans le camp démocrate, là, il n'y en a aucun qui, sauf à changer sa nature, pourra le faire. Ils ne savent pas le faire. Donc, ils ont perdu sur ces champs-là. Or, sur la question de l'argent, là, vous avez quelqu'un qui arrive et qui peut dire à Trump, dans le business, mon coco, il y a meilleur que toi, c'est moi. Mais mine de rien, ça peut sembler cow-boy, etc.
Mais ça parle aux Américains.
Mais dans une campagne, ça parle à tout le monde. Les Américains ne sont pas plus bêtes que les autres. Dans une campagne électorale, à la fin, c'est quoi ? C'est 2 hommes ou un homme et une femme. Et c'est ce qui reste, c'est la substance, c'est le programme politique. Mais vous savez, quand les gens ont voté pour Obama en 2008, ils n'ont pas forcément tous voté pour Obamacare, ils votaient aussi pour ce type qui avait une élégance, qui offrait une image nouvelle à l'Amérique, qui tendait un miroir flatteur aux Américains. C'est ça l'enjeu, tendre un miroir flatteur aux Américains. Et Michael Bloomberg, même s'il est plus vieux, ce qui pourra poser un problème, parce que du coup, Trump pourra paraître jeune et plus vigoureux que lui, mais il tendra quand même un certain miroir flatteur qui est celui de la réussite économique. Et ça, dans un contexte économique qui se ralentirait, ça pourrait être un argument de choc.
Alors, c'était une promesse de campagne de Donald Trump. C'est désormais officiel. Les États-Unis vont sortir de l'accord de Paris sur le climat. Son obsession, encore martelée cette semaine devant ses électeurs, remettre les mineurs américains au travail pour extraire, je cite, « du superbe charbon propre ». Sujet d'Emilien David et Erwan Ilion.
Global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax.
I don't believe it. No, I don't believe it.
I think I know more about the environment than most people.
Donald Trump, climato-sceptique notoire, l'annonce depuis le début, l'environnement ne sera jamais sa priorité. Et cette semaine, il a franchi un cap en lançant officiellement la procédure de sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat.
Nous avons mis fin à la guerre contre l'énergie américaine. Nous sommes les plus grands producteurs d'énergie du monde. Et nous avons mis fin à la guerre contre le beau charbon propre. Nous allons remettre nos superbes mineurs au travail.
Durant sa campagne, Donald Trump avait promis de relancer l'industrie du charbon, la source d'énergie la plus polluante. Une politique à contre-courant des objectifs mondiaux pour la réduction des émissions de CO2 largement assumée. Depuis le début de son mandat, le président américain détricote les mesures environnementales prises par son prédécesseur, jugées trop restrictives pour l'économie.
Avec le décret d'aujourd'hui, j'ai fait un pas historique pour lever les restrictions sur l'énergie américaine.
Le Clean Power Plan, par exemple, qui devait réduire de 32% les émissions de gaz à effet de serre entre 2005 et 2030, a été remplacé par un plan moins contraignant pour l'industrie. Une nouvelle mesure en faveur du charbon.
Le prix de l'électricité a augmenté dans 40 États à cause du Clean Power Plan. Notre nouveau plan donne aux États-Unis la liberté dont ils ont besoin pour continuer de réduire leurs émissions et de fournir de l'énergie accessible et sûre à tous les Américains.
Pollution de l'air, protection de la terre et des animaux. Au total, 50 lois en faveur de l'environnement ont été suspendues, révisées ou abrogées. Mais pour Donald Trump, les États-Unis n'ont pas de leçons à recevoir en matière d'écologie.
En termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, chacun des pays signataires des accords de Paris sur le climat est à la traîne derrière les États-Unis.
Mais les études scientifiques contredisent le président américain. Après 3 années de recul, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse l'an dernier, plus 3,4%. Alors qu'en Europe, elles ont globalement reculé, moins 9% au Portugal, moins 5,4% en Allemagne et moins 3,5% en France, par exemple. Cette politique anti-environnementale divise. À New York, épicentre du mouvement mondial pour le climat, 250 000 personnes ont manifesté en septembre dernier pour dénoncer l'inaction climatique des États.
L'Amazonie brûle, la terre est en feu, la banquise fond. On a besoin de changement.
Et dans certains États, la résistance s'organise. Des élus s'opposent frontalement à Donald Trump. L'an dernier, en Californie, l'ancien gouverneur a ratifié une loi engageant l'État à produire une électricité 100% propre d'ici 2045.
La Californie fera tout ce qu'il faut pour lutter contre le changement climatique. La Californie fait ce que le monde attend.
La sortie des États-Unis de l'accord de Paris ne sera effective que le 4 septembre 2020. Ironie du sort, ce sera le lendemain de l'élection présidentielle.
Laurence Nardon, pourquoi est-ce que Donald Trump a-t-il décidé de sortir des accords de Paris ? Est-ce que c'est parce que, par égoïsme, après tout, je fais ce que je veux, parce qu'il pense que ces accords seront inefficaces pour lutter contre le réchauffement climatique, ou parce qu'il ne croit pas au réchauffement climatique ?
J'ai pas de raison de croire qu'il soit pas sincère quand il dit qu'il n'y croit pas. Peut-être qu'il y croit pas réellement, mais la raison pour laquelle il sort de l'accord, c'est parce que sa base électorale est sur cette ligne. Si on reprend les grands morceaux de sa base électorale, il y a les protestants fondamentalistes qui sont anti-moderne et anti-science. Et donc, c'est une partie de l'électorat qui ne croit pas au discours des scientifiques sur le climat. La seconde partie, c'est les populistes. Alors, eux, ils ne croient pas non plus les scientifiques, mais eux, c'est plutôt parce qu'ils sont dans la tradition très forte aux États-Unis de l'anti-intellectualisme. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les intellos, parce qu'ils pensent que c'est des élites qui les trahissent, et donc ils ne croient pas non plus leur discours. Et puis, troisième partie, les nationalistes, qui, pour leur part, refusent le diktat de l'étranger, qu'est, à leurs yeux, l'accord de Paris. Et donc, pour obéir, pour faire plaisir à toute cette base-là, Trump sort de l'accord de Paris. Mais comme on le voyait dans le reportage, ces trois grands courants aux États-Unis qui sont anciens, hein, tout ça, l'opposition écolo, anti-environnementaliste, elle date du 19e. Il y a des grands courants écologistes aussi aux États-Unis, la création des parcs nationaux au 19e siècle en est la preuve, et c'est ce qu'on voit dans la société civile extrêmement dynamique aujourd'hui, au niveau des États, sur les questions environnementales.
Thomas Stegaroff.
J'ajouterais à cette dimension un peu électoraliste, je crois que le Trumpisme est un court-termisme. Et le court-termisme, c'est de la croissance économique tout de suite, maintenant. Il sait bien que son assurance tout risque, c'est pas ses délires, c'est même pas Bagdadi, c'est pas le retrait de... C'est pas du tout ça. C'est la croissance économique et l'emploi et la hausse du pouvoir d'achat, ce qui pour l'instant réussit. Il y a une croissance forte. Sauf que la croissance américaine aujourd'hui, elle est hyper carbonée. On sait très bien, et c'est l'enjeu de toutes les grandes démocraties aujourd'hui, il faut faire des arbitrages, des choix, c'est compliqué. Or, et là on retrouve effectivement à la fois le court-termisme et l'électoralisme, c'est que dans les États qui sont hyper importants pour lui, bah le Wyoming par exemple, on a besoin de produire du gaz, on a besoin de produire du pétrole. Et donc tout ça, c'est évidemment à l'encontre de toutes les législations que vous pouvez imaginer qui sont contraignantes pour la pollution. Donc il y a, quand je dis court-termisme, c'est que Trump, pour élargir un tout petit peu de la question environnementale, il y a un côté « après moi le chaos ». Il dit à tout le monde « sans moi, c'est le chaos », en fait, en pensant « après moi, le chaos ». Sous-entendu, ce qui est important, c'est ce qui se passe demain, pas après-demain. Et demain, c'est de la croissance économique, quel que soit l'après-demain. D'accord. Et c'est là où, effectivement, ça rencontre un désir de sa base. Mais moi, je crois fondamentalement, c'est qu'il sait, il sait comment fonctionne l'économie américaine et il a compris que l'économie américaine, si elle devait switcher et basculer vraiment dans une ère à long terme qui rejetterait ce modèle économique, ben ça coûterait quelques points de croissance, un peu d'emploi, et ça, il n'est pas prêt à faire ce sacrifice.
Alors, François Clémenceau.
Oui, juste pour prolonger ce que disait Laurence sur l'une des raisons pour lesquelles Trump sort des accords de Paris, le refus, en gros, de quelque chose qui serait dicté de l'étranger. En fait, on revient à la question de départ sur le multilatéralisme. Trump ne veut pas engager la parole des États-Unis et la signature des États-Unis sur quelque chose qui s'est décidé sans lui ou contre lui. Ou avant lui, en l'occurrence, c'est vrai, avec Barack Obama. Et ça va beaucoup plus loin que ça, parce que ce n'est pas seulement le climat, c'est tous les grands accords qui ont été signés ou qui étaient sur le point d'être signés, ou en échafaudage, que ce soit sur le libre-échange, mais ça peut être aussi évidemment sur d'autres sujets beaucoup plus importants, il n'y a pas que le climat. Vous avez par exemple sur les grandes conventions des Nations Unies, sur les objectifs de développement, vous avez des conventions internationales sur le désarmement, partout, vous observez ce phénomène de retrait. Et moi, ce qui me frappe encore davantage, c'est que dans son propre pays, il ne supporte pas non plus le fait que d'autres aient envie de relever le défi. Et l'exemple de la Californie était très bien trouvé. Voilà un État parmi d'autres, parce que c'est pas le seul,
de Paris, hein.
Qui non seulement veulent le respecter, mais aller plus loin en termes d'ambition. Et vous avez la Californie, vous avez un certain nombre d'États de l'Ouest ou du Nord-Est des États-Unis qui disent, nous, on ne va pas se laisser piéger là-dedans, il faut lutter contre le réchauffement climatique. Et à ce moment-là, Trump, qui aurait pu, j'allais dire même presque par philosophie, dire, on est dans un pays où chacun prend ses responsabilités, là, en l'occurrence, il va trouver les moyens juridiques pour s'opposer à la volonté de ces États et pour aller les poursuivre devant les tribunaux parce que ça contrevient aux décisions exécutives qu'il a prises. Pour l'instant, aucune législation sur l'environnement n'a été adoptée par le Congrès. Ce sont uniquement des décisions exécutives prises dans le bureau ovale.
Ceci dit, ça ne date pas de Trump, parce que rappelez-vous du protocole de Kyoto, négocié par Bill Clinton dans les années 90, adopté en 97, et abrogé, George Bush en était retiré au début des années 2000. Donc cette opposition républicain-démocrate sur l'environnement, elle est ancienne. Hein.
Alors, Thomas, excusez-moi, pour finir là-dessus, avec ce nouvel élément, il me semble, depuis 2016, qui est ce nouvel engagement de la génération qui arrive sur les questions environnementales, ça c'est relativement récent, et ça va être intéressant de voir comment ça jouera dans l'élection.
Il y a un positionnement générationnel très fort. Thomas Negaroff, on le disait, cette volonté de sortir des accords de Paris témoigne de la politique America First, de l'isolationnisme américain. Mmh. Après tout, je fais ce que je veux et je n'ai pas à me faire dicter par les autres ma conduite. Question téléspectateur, une victoire de Trump à la prochaine élection entraînerait-elle de profonds changements géopolitiques ? Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui pour l'instant reste une parenthèse, cet isolationnisme, est-ce que si Trump était réélu l'année prochaine, est-ce qu'au terme de 8 ans de mandat, il n'y aurait pas un changement structurel sur la politique mondiale de Donald Trump ? Et pour dire les choses simplement, est-ce que la relation historique transatlantique pourrait être menacée ?
Alors, c'est une question compliquée, j'ai combien d'heures tout à l'heure, je disais, le Trumpisme est un court-termisme, mais dont
est-ce
les effets sont à très long terme.
Ou est-ce que ça va changer le logiciel ?
Mais dont les effets, c'est le paradoxe, sont à très long terme. Parce qu'en effet, ce retrait du monde, qui avait déjà été entamé sous Barack Obama, n'oublions pas que Barack Obama a été élu en 2008 avec la promesse de se retirer des deux guerres de l'époque, l'Irak et l'Afghanistan, de désengager les troupes américaines en Europe au profit de l'Asie du Sud-Est, le fameux shift. Donc tout ça était déjà en germe. Trump est peut-être une parenthèse, on verra dans quel sens où se ferme la parenthèse, mais il est aussi un peu ouvert du côté de Barack Obama, notamment sur les questions de positionnement géopolitique.
Ça avait commencé sous Obama.
Là, on a quand même aujourd'hui, ça a pris quand même une dimension plus importante, parce que ce désengagement, parce que si Barack Obama avait renoncé à ce désengagement, c'était notamment après la crise ukrainienne, en constatant que les Européens n'étaient pas capables de faire face à la Russie de Poutine. Là, alors que nous ne sommes toujours pas capables de faire face à la Russie de Poutine, les États-Unis poursuivent et accentuent leur désengagement. On a vu avec toutes les critiques envers l'OTAN, même s'il faut nuancer un peu ce que dit Trump et ce que fait véritablement l'Amérique sur le terrain. Il y a là parfois une double diplomatie qui est un peu dure à lire. Mais c'est vrai qu'à moyen terme, peut-être à long terme, on sent un désengagement américain, comme si les Américains avaient pris conscience que leur siècle américain, commencé en 1941 avec Pearl Harbor, c'est pas nouveau, est en train de s'achever, qu'en gros, et c'est ce que dit Trump en décembre 2018, mais c'était pas le premier à leur dire, mais quand lui le dit, ça a plus de poids que les prédécesseurs parce qu'il le pense vraiment, nous ne sommes plus les gendarmes du monde. Il l'a dit en 2018, en décembre 2018, tous le sont dit avant, mais les autres le disaient en disant, nous ne sommes pas les gendarmes du monde, donc aidez-nous, partageons le fardeau, dépensons tous des sous pour ça. Mais lui, c'est pas ça. Lui, il dit, on n'est plus les gendarmes du monde parce que ça nous coûte trop cher, on n'a plus intérêt à rester chez nous. Et ça a des conséquences dans le monde entier, dans la mesure où la puissance pivot du monde entier, ça reste les États-Unis. Tout le monde regarde vers les États-Unis. Et dans le vide géopolitique, la nature a horreur du vide, y compris en géopolitique, dans le vide laissé par les États-Unis, vous avez des pays qui se sentent la possibilité, le droit, peut-être même le devoir d'agir dans leur région. C'est la Turquie, c'est la Russie, c'est la Chine en mer de Chine.
Puisqu'il n'y a plus le gendarme américain.
Et dans ce contexte-là, c'est un peu instable.
Jéry, il ne faut même pas attendre un prochain mandat éventuel de Donald Trump. C'est déjà le cas. Regardez cet entretien accordé par Emmanuel Macron cette semaine. Voilà. Oubliez
L'OTAN est dans une mort cérébrale. L'OTAN qui est l'alliance transatlantique.
À cause de tout ce qu'évoquait Thomas à l'instant, la Turquie, la Russie. Et donc, il faut entamer un dialogue avec la Russie. C'est toute la politique, toute la géopolitique qui est en train d'être redessinée parce qu'il y a cette double démocratie. C'est vrai qu'il dit ce que d'autres ont dit, mais il fait aussi. Oui. Je pense qu'un des grands changements a été concrètement ce retrait de la Syrie des États-Unis. Quelque part, c'était la réalisation véritablement concrète avec des conséquences très réelles pour la région et pour les gens qui habitaient là, de cette politique annoncée, de cette rhétorique trumpiste. Et c'est ça qui fait que Emmanuel Macron prévient là-dessus. Finalement, on l'a entendu, il y a une double diplomatie, pardon, mais il y a aussi maintenant un passage à l'acte et il y aura des conséquences, déjà, même sans attendre qu'il soit réélu.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, entre le Kentucky et la Virginie, quelle défaite a fait le plus de mal aux Républicains et pourquoi ? Y a-t-il une autre défaite possible en vue ?
Le Kentucky a fait plus mal parce que François rappelait Mitch McConnell qui dirige les Républicains au Sénat et c'est son État. Et la Virginie était déjà perdue. Le gouverneur était déjà démocrate. Là, c'est les chambres, le Congrès qui bascule. Mais la Virginie, elle était perdue par Trump en 2016 de 5 points. Donc, il perd. Là, en revanche, le Kentucky, il avait gagné, je ne sais plus, de 20 points ou 15 points en 2016.
Et là, maintenant, et c'est le gouverneur, c'est 50-50.
Ça a basculé. Et là, il y a une vraie inquiétude. C'est plutôt le Kentucky que la Virginie. Et puis le Mississippi, même s'il conserve, il n'y a pas de bascule dans le Mississippi, mais l'avance a fondu comme neige au soleil, avec ce que disait tout à l'heure ma collègue sur la question des suburbs.
Les banlieues.
L'évolution sociologique.
Trump peut-il échapper à la destitution ?
Oui.
Parce qu'on l'a dit, il faut une majorité des deux tiers au Sénat. Or, le Sénat est républicain.
Le Sénat est républicain 52-48
53-47.
Et il faut les deux tiers, donc plus de 60 voix. Ouais. Et on a du mal à imaginer qu'une douzaine de sénateurs républicains puissent faire défection. Maintenant, on a assisté à tellement de surprises tout au long de ces derniers mois, de révélations, de trahisons, de rebondissements en termes de, justement, de loyauté, d'allégeance. Moi, je ne suis pas, je mettrai pas ma main au feu.
Juste un rappel historique, un tout petit peu quand même. Sous Clinton, il y avait un truc génial. C'est que les électeurs américains, quand ils ont, à 70%, ils disaient « il y a eu parjure ». À 55%, ils ont dit « il y a eu entrave à la justice ». Mais on considère que ce n'est pas suffisamment grave pour le destituer. On oublie toujours cette dimension-là. Ouais. Peut-être que les enquêtes vont prouver. Peut-être que les enquêtes vont prouver qu'il y a eu ça, coup de poing, etc. Mais peut-être qu'à la fin, les Américains vont dire ouais, mais ça ne vaut pas destitution.
Ça ne mérite pas.
Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'il y aura. On va prouver que les électeurs américains diront ah ben il faut le destituer et donc que les sénateurs changeront leur loyauté.
Non, après il y a l'impact. Il y a l'impact de la décision de la Chambre. Il y a l'impact éventuellement de la décision du Sénat. Sur la présidentielle. Et donc, c'est vrai que...
Ça peut laisser des traces, voilà.
Ça peut laisser des traces. Et il y a une troisième option qu'on n'a pour l'instant pas évoquée, qui est celle de la démission. On ne peut pas l'écarter comme ça, d'un revers de main, sous prétexte que ça n'existe pas. Il y a eu un précédent, et il faut savoir s'en rappeler.
Les témoins de cette affaire ont-ils subi des pressions directes ou indirectes de Trump afin de les décourager de parler? Quand on voit que le président américain aurait fait des pressions sur le président ukrainien, on imagine qu'il ne se gêne pas avec les membres de son propre camp.
On sait que Mike Pompeo a mis une pression sur les officiels, et on parle de beaucoup d'officiels qui travaillent directement pour lui, puisqu'il est secrétaire d'État, a mis une pression certaine pour ralentir en tout cas le processus et empêcher certains de se présenter. C'est eux qui ont insisté finalement pour
le
faire.
Ils sont convoqués pour les auditions,
donc c'est déjà
ils ne se présentent pas.
Ouais.
Voilà. Les auditions...
Juste un truc là-dessus, parce que c'est intéressant. Ceux qui ne se présentent pas, en fait, on pourrait dire, mais c'est scandaleux, etc.
Ouais.
La Chambre dit, on pourrait les obliger à le faire, ça finirait en justice, ça va durer des mois. Or, nous, on veut que ça aille vite, parce qu'on ne veut pas que ça pollue la présidentielle. Donc, il y a un jeu un peu intéressant, là, qui se joue entre la Maison-Blanche et le Congrès.
Les auditions publiques seront-elles diffusées par les médias, Mélissa Bell?
Ah oui, les États-Unis les suivront la semaine prochaine, bien sûr, et on pourra entendre à chaque fois.
Donc vous, sur
et
CNN,
le questionnement de chaque... Oui, bien sûr, on va suivre de très près.
Et vous les diffuserez en direct,
certain.
Alors
en disant ils seront diffusés en direct, oui, bien sûr. Et ça sera la possibilité pour la première fois d'avoir un aperçu réel, d'entendre véritablement, et on parle d'anciens diplomates, d'anciens ambassadeurs, de personnages très importants, dont on sait pour certains par les témoignages qu'ils ont déjà donné par écrit, qu'ils vont dire clairement aux comédies qui les questionnent, qu'il y a eu ce fameux échange quid pro quo sur cette question.
Pourquoi Trump a-t-il été condamné à payer une amende? Ouais, donc 2 millions de dollars par le tribunal de New York pour... Alors, c'est quoi? C'est pour utilisation politique de sa fondation de charité. C'est-à-dire qu'il a fait des dons et il s'est vanté.
Il a reçu des dons qui sont allés dans sa fondation et il a utilisé l'argent de cette fondation pour des objectifs politiques personnels.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a plus le droit d'avoir une fonction caritative pendant une période très très longue. Or, ça fait partie aussi de la fonction un peu présidentielle, et notamment post-présidentielle.
Non, mais ce qui est fou, c'est que depuis le début, ça fait quand même 3 ans, on avait toujours dit, vous allez voir, il finira par mettre de l'ordre dans ses affaires, par écarter un certain nombre de ses proches de la direction, par exemple, de ses hôtels ou de ses golfs, et de faire en sorte qu'il y ait une vraie séparation entre ses intérêts privés et sa position à la Maison-Blanche. Et il n'en est rien. Et c'est ça qui est stupéfiant. Et quand vous voyez aujourd'hui ses enfants et son gendre, qui continue d'intéresser la justice pour des affaires qui relèvent littéralement du conflit d'intérêts.
Mais justement, ce qui ne tue pas Trump le rend plus fort, non, Mélissa Bell? On a l'impression...
C'est ce qu'on a vu jusque-là, en tout cas, absolument. Oui, Teflon Man, c'est exactement ça. Oui.
Mais sa base adore quand il est transgressif et anti-élite, c'est ce qui plaît aussi.
Et qu'il est persécuté par l'intelligentsia de la côte Est.
Le mainstream liberal media.
C'est la preuve que j'ai raison.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Elle sera rediffusée ce soir à 23h15. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau C'est dans l'air à suivre sur France 5. C'est à vous.